Est-ce que mademoiselle Talabar pourrait nous conduire dans la prière?
Nous te demandons de nous donner des bénédictions par ce que nous allons entendre. Seigneur, nous savons que c'est toi le gardien de tout. C'est toi qui as le monde dans ta main, spécialement Israël, Seigneur. Nous te demandons de nous donner des lumières sur Israël, sur l'accomplissement de ces prophéties, Seigneur, parce qu'elles sont réalisées à la lettre. Seigneur, nous voyons tout ce qui t'a, tout tes dessins, tout à toutes les prophéties, Seigneur, qui se réalisent peu à peu. Et nous attendons que ton retour, Seigneur, rapidement, parce que nous avons besoin de toi, Seigneur, de ta présence. Loin du péché, loin de l'erreur, Seigneur. Nous te demandons de nous aimer tous ensemble aujourd'hui, Seigneur. Et tous ceux aussi, Seigneur, qui n'ont encore pu se plaindre à nous pour cause de santé ou de chute. Seigneur, bénis-les. Seigneur, fais-le bien. Te le demandons au nom de Jésus. Amen.
Amen. Je vous invite à lire le passage qui est peut-être le passage principal de l'Écriture sur le sujet qui doit nous occuper. Romains 11. Le chapitre 11e de l'Épître aux Romains, vous savez que dans les chapitres 9 à 11, l'apôtre Paul traite de manière développée et suivie de la destinée d'Israël, de l'énigme en particulier que constitue le rejet par la majeure partie de l'Israël de son temps, du Messie dont il est venu, de Jésus. Et c'est le chapitre 11 qui développe des perspectives historiques vastes et embrassant les siècles, donc qui nous intéresse particulièrement dans l'étude que nous avons mise à notre ordre du jour ce dimanche. Donc Romains 11, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Certes non. Car moi aussi je suis israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie adresse à Dieu cette plainte contre Israël ? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle est la réponse divine ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc ? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu. Les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit... Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir et tient continuellement leur dos courbé. Je dis donc, ont-ils trébuché afin de tomber ? Certes non, mais par leur chute. Le salut a été donné aux païens afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur défaite la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi de leur complet relèvement ? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, moi, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, de provoquer la jalousie parmi ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts ? Or, si les prémices sont saintes, la pâte l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et si tu as participé à la racine et à la sève de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, des branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. Fort bien. Elles ont été retranchées à cause de leur manque de foi. Et toi, tu subsistes par la foi. N'aie pas de pensée hautaine, mais de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures dans cette bonté. Autrement, toi aussi tu seras retranché. Eux de même, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et contrairement à ta nature, greffé sur l'olivier franc, à plus forte raison seront-ils greffés selon leur nature, sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, « Le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis, à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés, à cause de leur Père, car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi, afin d'obtenir miséricorde, eux aussi maintenant par la miséricorde qui vous est faite. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire, dans tous les siècles. Amen. Au cœur du plan de Dieu, dont nous avons dit la dernière fois qu'il définit le sens de l'histoire, il y a Israël. Nous nous étions spécialement penchés sur le texte introductif de l'Épître aux Éphésiens. Et vous vous rappelez que j'ai fait remarquer qu'il y a tout un paragraphe qui parle en fait de la situation particulière des Israélites. Paul parle d'une part de nous. Nous avons été mis à part, ceux qui d'avance ont espéré en Christ, et puis ensuite, s'adressant aux chrétiens d'origine païenne, qui forment la majorité des destinataires de son épître, il dit de même vous aussi. Vous avez été scellés du Saint-Esprit, etc. Déjà dans ce grand développement d'Éphésiens qui nous parle du plan de Dieu, de ce conseil, de celui qui opère tout selon le conseil de sa volonté, il y a la place particulière d'Israël qui est indiquée. Et on la repère si on discerne bien quels pronoms sont employés. Le sujet de la destinée d'Israël et du rapport entre Israël et ce qui s'est passé lors de la première venue de Jésus, de l'Église, qui en est comme la résultante, le résultat de cette première venue de Jésus, c'était un sujet parmi les plus brûlants du Nouveau Testament. Je crois qu'il y a un très grand nombre de passages du Nouveau Testament qui en fait relèvent de la discussion de ce problème-là. Et il nous arrive de manquer le sens du Nouveau Testament, parce que pour nous c'est un problème moins présent, moins vif, et du coup nous ne voyons pas que c'était cela qui préoccupait les premiers chrétiens, le rapport entre Israël et l'Église. La question de la circoncision, faut-il circoncire les païens qui se convertissent, c'était en fait le problème du rapport entre Israël et l'Église. Les païens devaient-ils être israélites par la circoncision, comme les prosélytes du judaïsme devenaient israélites, pour devenir chrétien? Ou bien n'était-ce pas nécessaire? Y avait-il une distinction telle entre Israël et l'Église, une relève prise selon le plan de Dieu telle que la circoncision n'avait pas à être imposée? C'était le problème du rapport entre Israël et le peuple de la Nouvelle Alliance. Et vous savez qu'il a fallu non seulement des épîtres de l'apôtre Paul, non seulement beaucoup de discussions, mais même une grande conférence avec les représentants de tous les chrétiens de l'époque à Jérusalem. Cela nous est rapporté en Acte 15. Que s'est-il passé après le Nouveau Testament? Je crois qu'on peut schématiser l'histoire de notre question de la manière suivante. Il y a eu séparation de fait entre les chrétiens, constituant l'Église, et le judaïsme, refusant de voir en Jésus-Christ le Messie. Pendant un temps, c'était un petit peu entre deux. Il y avait de fortes discussions, le livre des Actes nous le montre bien. Les chrétiens allaient encore adorer au temple, à Jérusalem. Ils étaient considérés, les chrétiens, comme un des partis, dont il y avait plusieurs, au sein du judaïsme. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les esséniens, il y avait les chrétiens, comme on les a appelés à Antioche. C'était au départ comme un parti du judaïsme. Mais deux faits ont abouti à une séparation dans le temps du premier siècle, après les premières années, et puis au début du deuxième siècle. Deux faits ont abouti à la séparation. Premièrement, la persécution que les autorités du judaïsme ont jugée nécessaire à l'égard de cette secte chrétienne. Ils n'ont pas pu la tolérer comme une variété au sein du judaïsme. Et entre autres, à cause de ce que la conférence de Jérusalem avait discerné sur la circoncision. On n'imposait plus aux païens de devenir des juifs pour devenir chrétiens. Et cela était intolérable aux autorités du judaïsme. Et puis le second facteur a été la destruction de Jérusalem, du temple en 70, la ruine de tout le système basé sur l'Ancien Testament et la dispersion des Israélites. Alors, tout ne s'est pas fait d'un coup. Il y a eu la catastrophe de l'an 70 et jusqu'à la défense héroïque de la forteresse de Masada l'année suivante, je crois. Mais il y a eu ensuite plusieurs décennies de situations un peu confuses avec comme un dernier épisode dramatique qui a scellé le sort du vieux système judaïque, pourrait-on dire, avec la révolte de Bar Korba au IIe siècle, en 130 de notre ère, une révolte pendant laquelle Israël a de nouveau été indépendant, les armes à la main, grâce à une armée de guérilleros conduite par Kosba, surnommé Bar Korba, c'est-à-dire fils de l'étoile, titre messianique, pendant 3 ans environ, 3 ans, 3 ans et demi, et puis finalement les Romains ont écrasé dans le sang cette grande révolte juive, et à partir de ce moment-là, alors il n'y a plus eu de judaïsme établi sur la terre même d'Israël avec des institutions pour le représenter là, c'est le judaïsme de la dispersion avec sans doute le poids prépondérant de la Mésopotamie, ce qui a aussi quelques écoles du côté du lac de Tibériade, plus au nord, en Palestine. C'est donc là que le judaïsme a eu ses instances religieuses et non plus politiques, à la mesure où on peut discerner. Alors, à la suite de cette rupture, on peut dire que deux convictions se sont établies de manière de plus en plus ferme dans l'Église chrétienne, ou les églises chrétiennes, on les discerne bien au second siècle déjà, la conviction que l'Église est l'héritière de l'Ancien Testament. Un savant qui est d'ailleurs d'origine juive, un grand historien français, Marcel Simon, a écrit un livre sous le titre « Verus Israël », c'est-à-dire « Le vrai Israël », pour parler de cette conviction qui était vraiment universelle dans l'Église de ce temps-là, après la séparation. L'Église est le vrai Israël. C'est elle qui hérite des promesses de l'Ancien Testament. Il y a de ce point de vue-là continuité en même temps que distinction. Et puis deuxième conviction, qui sans doute au deuxième siècle n'apparaît pas encore d'une manière très brutale, mais qui est déjà présente quand même, l'idée que les Juifs qui refusent de devenir chrétiens, de reconnaître en Jésus le Messie, sont maudits, sont sous la malédiction. La catastrophe de 70, la destruction de Jérusalem, est un châtiment pour le rejet et le crucifixion de Jésus, mais il y a une malédiction qui pèse sur leurs descendants qui persévèrent dans la même incrédulité. Cela apparaît, je crois, très, très clairement comme une conviction chrétienne, et c'est ce qui ensuite s'est consolidé pendant des siècles et des siècles de chrétienté, avec l'idée du peuple déicide pour Israël. Et ça n'a pas empêché une certaine coexistence, généralement pacifique, avec des pogroms, des explosions de malveillance par moment, mais aussi des contacts, des conversions du judaïsme au christianisme, il y en a eu tout le long de cette histoire, une influence aussi parfois des rabbins sur des théologiens chrétiens. L'exégèse juive, par exemple, a fait de très grands progrès. Elle a été représentée par des hommes très érudits et très brillants au début de la période la plus sombre du Moyen-Âge pour nous. 11e siècle, début du 12e siècle, c'est là qu'il y a eu de très grands commentateurs. Eh bien, on sait, historiquement c'est bien attesté, qu'il y a eu une influence de ces grands commentateurs, des rabbins de haute science, sur des théologiens chrétiens. Ils les ont amenés en particulier à être un peu moins férus d'allégorie, à chercher un peu plus le sens littéral. Ça a préparé la réforme. Ça a été un des facteurs qui ont préparé la réforme avec le retour au texte original. Mais l'attitude fondamentale quant au rapport entre Israël et l'Église est demeurée celle que j'ai dite. Foncièrement, l'Église est héritière de tous les biens vétérotestamentaires dans l'Ancien Testament d'Israël. Les Israélites selon la chair, refusant Jésus, sont sous une malédiction qui a très souvent servi de prétexte à un véritable racisme et à ce qu'on peut appeler l'antisémitisme. Au temps de la réforme, malgré le retour à l'hébreu, et un homme comme Luther a pu dire que les malheurs de l'Église venaient de ce qu'on ait oublié l'hébreu dans l'Église, malgré ce retour, je ne pense pas qu'on puisse dire que la situation a été radicalement changée. Luther a pu s'exprimer d'une manière antisémite par moment, qui est une tache sur sa réputation. Je crois qu'on est obligé de le signaler. Calvin, toujours plus contrôlé, toujours plus prudent, modéré, je crois, n'a pas donné dans les mêmes errements. Cependant, son schéma est conforme, me semble-t-il, fondamentalement, au schéma traditionnel. On lui impute très souvent, ce qui est un élément maintenant que je vais aborder pour une période nouvelle, mais on lui impute très souvent l'idée d'une conversion massive des Israélites à la fin de l'ère dans laquelle nous sommes, avant ou au moment du retour du Seigneur. Jusqu'à présent, je n'ai pas pu trouver de texte tout à fait formel. Le commentaire de Romains 11 par Calvin n'est pas entièrement clair sur ce point. Croit-il ou non à une telle conversion massive? Moi, j'ai entendu que ça lui était attribué, même quelqu'un comme M. Jules Marcel Nicole, qui parle généralement avec de très solides appuis de connaissances sûres, je crois, attribue à Calvin cette opinion. Mais quand j'ai été chercher dans les textes, parce que c'était contesté par d'autres, j'avoue que j'étais obligé de dire c'est pas clair, ça ne me paraît pas très net ni dans un sens ni dans l'autre. Alors dans la période qui a suivi, et tout spécialement à la suite du mouvement piétiste réveil, et je saute vite sur les générations, avec une intensité très vive au début du 19e siècle, à la suite de la Révolution et de Napoléon, beaucoup de chrétiens se sont mis à étudier les prophéties d'une manière quasiment frénétique, en tout cas avec beaucoup plus d'ardeur qu'ils n'avaient fait précédemment. Donc, à la suite du mouvement piétiste, un homme comme Bengel, à la suite donc des traumatismes de l'âge révolutionnaire, alors un intérêt nouveau pour Israël dans la prophétie s'est développé, et l'interprétation de Romains 11, qui y voit la promesse d'une conversion massive pour l'Israël selon la chair, qui, celui du judaïsme, si vous voulez, cette interprétation s'est répandue fort largement parmi les évangéliques de toutes sortes, de toutes dénominations. Je pense qu'on peut dire que par rapport à l'histoire plus ancienne des églises, ça a été un fait nouveau, important. Cela n'implique pas la remise en cause fondamentale du schéma traditionnel, à savoir que l'Église c'est le nouvel Israël, l'Israël spirituel, mais cela implique que qu'Israël, malgré l'Israël charnel, malgré ce qui pèse sur lui, a un avenir particulier dans le plan de Dieu, un avenir de bénédiction, que Dieu ne le laisse pas sous cette malédiction que la population de Jérusalem a appelée sur elle-même en disant que son sang retombe sur nous. Dieu ne la laisse pas en cet état, dans sa miséricorde, et il y a un avenir particulier pour Israël. Alors ça, c'est une conviction qui s'est répandue, qui n'est pas unanimement professée aujourd'hui parmi les chrétiens évangéliques. Je crois que il faut bien le dire clairement, il y a des chrétiens évangéliques de très très grande qualité, à la fois spirituelle et théologique, qui ne croient pas que cela soit annoncé par les textes, que cela soit prédit. En fait, M. Georges Moukari a consacré son mémoire de maîtrise à la faculté de Vaux-sur-Seine à l'interprétation de Romains 11, et il conclut contre cette pensée. Il essaye d'argumenter tout au long que le texte de Romains 11 n'a en vue que des conversions individuelles tout au long de l'histoire de juifs qui adhèrent au christianisme et deviennent à ce moment-là chrétiens. Et il est clair dans le texte que les branches coupées de l'olivier représentent ces juifs qui refusent de croire en Jésus-Christ. Il est question d'une greffe de réintégration pour ces branches qui appartenaient à l'olivier Israël et qui ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Il est question d'une greffe de réintégration dans le texte. C'est ce que Paul souligne pour que les chrétiens d'origine païenne ne fassent pas les malins face aux juifs incrédules, ne se croient pas supérieurs, ne s'énorgueillissent pas. Mais M. Moukari, à la suite de beaucoup d'autres, hein, il a fait un très bon travail d'argumentation en faveur de cette vue. M. Moukari croit que cette greffe de réintégration se fait un par un dans chaque génération. Ce sont tous ceux qui se sont convertis à Jésus-Christ et qui étaient d'origine juive qui sont en cause, et qu'il n'y a pas un événement spécial à attendre, un événement particulier pour la fin des temps. Il y a aussi dans le champ évangélique une autre tendance, alors juste à l'opposé, par rapport à celle qui attend un avenir pour Israël, mais qui pense que l'Église est le vrai Israël néanmoins. Il y a une tendance qui est représentée par Darby, historiquement, John Nelson Darby, et qui a donné naissance à l'interprétation globale de la Bible qu'on appelle dispensationaliste, celle qui se trouve dans les notes de la Bible Scofield, par exemple. Selon cette interprétation, donc, qui a été forgée par Darby, l'Église n'est pas le nouvel Israël, n'est pas l'Israël spirituel, n'est pas l'héritière des promesses de l'Ancien Testament. En fait, l'Église n'est pas prévu du tout dans l'Ancien Testament. C'est une parenthèse dans le plan de Dieu. L'Ancien Testament concerne Israël. Comme Israël a rejeté le Messie quand il est venu, une parenthèse s'est ouverte, qui n'a donc pas de rapport à ce qui entoure cette parenthèse. Certains disent même, parmi les dispensationalistes, le mot parenthèse est encore trop fort. Une parenthèse, en général, ça a quand même un sens, un rapport au sens de la phrase. Eh bien là, il n'y a même pas ça. C'est un bloc intercalé, en quelque sorte. Bon, habituellement, on dit une parenthèse est ouverte, qui est le temps de l'Église, pendant lequel des individus juifs ou païens d'origine s'attachent à Jésus-Christ, constituent un autre peuple. Et puis, quand la parenthèse se referme, au moment de l'enlèvement de l'Église, alors c'est la continuation de l'histoire de Dieu avec Israël. Mais Israël et l'Église se trouvent sur deux voies séparées et qui ne se rejoignent pas. Pour les dispensationalistes, disons purs et durs, parce qu'il y a des nuances, hein, les deux peuples demeurent distincts jusque dans l'éternité. Il n'y a pas d'union entre le peuple d'Israël qui a toutes les promesses de l'Ancien Testament, et puis le peuple de de cette alliance spéciale de la parenthèse de l'Église qui est notre temps à nous, qui sommes ici réunis. Chez certains dispensationalistes, on pourrait dire ultra à certains égards, là encore, ce n'est pas universel. Cela s'associe à la pensée que pour la conversion d'Israël, ce n'est pas vraiment à l'Église de faire des efforts. Que, bien sûr, il y a des individus d'origine juive auxquels on peut rendre témoignage et qui se joignent à l'Église pendant ce temps de la parenthèse, mais que pour la vraie conversion d'Israël, ce n'est pas une mission d'origine chrétienne, d'origine ecclésiale, qui va agir, c'est une intervention directe du Seigneur. Ça peut se situer un peu avant son retour glorieux ou un peu après, ça dépend, ou au moment même, disons, les interprétations diffèrent. Mais en tout cas, cela veut dire pas de mission auprès d'Israël. Et la tendance s'est accentuée chez certains contre l'idée de la mission à Israël. Les chrétiens n'ont pas ce travail, c'est une autre section du plan de Dieu en quelque sorte. Très curieusement, cette façon de voir rencontre l'écuménisme libéral de notre temps. Du côté des libéraux qui se retrouvent dans les églises du Conseil œcuménique des églises, il y a une évolution ces dernières décennies qui va dans le même sens. Après des siècles d'ignorance du problème d'Israël et d'antisémitisme larvé dans ces grandes églises institutionnelles, il y a eu un réveil de l'intérêt pour Israël. Le sionisme y a contribué, sans doute, comme phénomène historique très important. Également, la Shoah, ce comble d'antisémitisme qu'a été la persécution nazie des Juifs. Et, dans ces dernières dizaines d'années, en liaison avec l'attitude d'ouverture à toutes les religions, alors il y a une attitude qui conduit à non seulement affirmer une certaine solidarité spirituelle avec le peuple juif, avec le judaïsme comme tel, à affirmer ses valeurs. C'est très à la mode à l'heure actuelle, vous pouvez voir dans certaines bibles avec notes, de citer les rabbins de la tradition juive. Non seulement il y a cela, mais il y a la thèse selon laquelle il ne faut pas essayer de convertir un adepte du judaïsme à Jésus. Que ça, c'est un orgueil intolérable, que c'est quelque chose de tout à fait exclu, le prosélytisme est condamné. Et ça, c'est une tendance qui s'est accentuée dans ces 30 dernières années, disons, jalonnée par des textes de ces églises ou des commissions du Conseil œcuménique des églises. C'est une tendance qui n'est contrariée que par un autre élément, l'élément politique. Parce que dans les 15 à 20 dernières années, à cause de leur tendance socialisante en général, les dirigeants œcuméniques du Conseil œcuménique des Églises ont pris plutôt le parti des Palestiniens en matière politique quant à la terre d'Israël. Ce qui crée une tension interne au sein du Conseil œcuménique, politiquement plutôt favorable aux Palestiniens, mais quant au point de vue religieux, alors soucieux d'exalter les valeurs du judaïsme et de dire aux Juifs, c'est très bien comme ça, servez le Seigneur comme vous l'entendez, surtout pas essayer de vous faire changer. J'ai rendu compte d'un des livres du Conseil œcuménique dans le numéro spécial de juillet 89 de Fac Réflexion, donc publié par la faculté, qui concerne la question du rapport au judaïsme, et qui contient une déclaration à laquelle j'ai participé, d'un certain nombre de théologiens du monde évangélique, de diverses nationalités, destinée à contrer cette façon de voir, qui est celle donc d'une majorité œcuménique, et de certains évangéliques à l'extrême aussi. La déclaration de Willobin, que nous avons donc traduite en français et publiée, se trouve aussi dans ce numéro, je crois que ça peut vous intéresser. Voilà, très schématiquement, la situation. Et je vais, sachant que notre temps est limité, vous présenter de manière assez brute les thèses que je pense juste en la matière, mais vous trouverez plus d'arguments, de fondations là-dedans, dans ce numéro, ou dans d'autres livres que je peux vous indiquer. Le premier point, me semble-t-il, c'est l'affirmation que, selon le Nouveau Testament, l'Église est bien l'Israël de Dieu, Israël selon l'Esprit. La formule n'est pas dans le Nouveau Testament pour l'Église, mais elle est appelée par la formule Israël selon la chair que Paul utilise en 1 Corinthiens 10. S'il y a une chose qui me paraît vraiment très claire et qui est reconnue par pratiquement tous, sauf certains dispensationalistes, parce que les libéraux, ils reconnaissent bien que c'est dans la Bible, mais ils sont cons, simplement. S'il y a quelque chose qui est reconnu pratiquement par tous, c'est que telle était la conviction des premiers chrétiens. Le mot même d'église, ecclésia, c'est un terme utilisé pour l'assemblée d'Israël dans la traduction grecque de l'Ancien Testament. C'est le terme pour le peuple de l'Alliance. Donc, cela, je pense, on doit le maintenir fermement. À coup sûr, Dieu a, dans son plan, choisi cette famille parmi toutes les familles de la terre, descendance d'Abraham, l'a dotée d'institutions diverses, etc. Mais c'était en vue de la venue de Jésus-Christ, et après Jésus-Christ, la forme du peuple qui est en alliance avec Dieu, qui est dans la continuité vraie, dans l'axe de ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament et ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, c'est bien l'Église. L'Église qui n'est pas du tout simplement une Église gentilique, qui est faite d'abord d'Israélites, qui ont reconnu le vrai sens de la foi de leurs ancêtres, qui ont reconnu en Jésus celui qui devait venir et qui constitue le noyau de l'Église. Dans le Nouveau Testament, c'est bien ça, et ça définit la nature de l'Église. L'image de l'olivier me semble vraiment une clarté parfaite en Romains 11. Je ne vois pas comment on peut la manquer. Il y a un olivier qui est Israël, qui est le peuple de Dieu. Dans Jérémie, d'ailleurs, l'olivier figure pour Israël. Les racines, ce sont les pères, qui Abraham, Isaac, Jacob. Qu'est-ce qui se passe au moment de la venue de Jésus-Christ? Certaines branches refusent de croire en lui. Et à cause de leur manque de foi, dit l'apôtre Paul, elles sont retranchées. L'olivier reste là. Ceux qui croient en lui sont des branches qui restent dans l'arbre. L'arbre continue. Paul dit, et moi, je suis israélite, Dieu n'a pas rejeté son peuple, l'arbre il est toujours là, je suis dedans, je suis de Benjamin, et je crois en Jésus-Christ. Je suis dans l'arbre, c'est le reste, selon l'élection de la grâce, qui hérite vraiment des promesses, qui est dans la continuité, la sève qui monte des racines, elle monte dans ses branches. Alors il y a des branches qui sont retranchées, qui représentent les israélites qui s'endurcissent contre le message de l'évangile, et qui sont là comme un tas de fagots. Et puis, il y a, alors ça c'est quelque chose qui n'était pas dans l'Ancien Testament, bien que promis dans l'Ancien Testament, d'une manière plus ou moins voilée, il y a des branches qui n'étaient pas naturellement de cet arbre, qui étaient d'un olivier sauvage, qui sont greffées dans cet olivier. Donc à ce moment-là, en font partie, acquièrent par adoption le statut des branches naturelles. Ce sont les païens qui croient en Jésus-Christ, qui sont circoncis de cœur par l'action du Saint-Esprit, et c'est le cas de la plupart d'entre nous. Nous n'étions pas de cet olivier, mais nous y sommes greffés par grâce de Dieu. C'est bien clair que l'Église, c'est l'olivier qui continue. Elle est faite de ces Israélites croyant en Jésus et des païens qui y croient aussi et qui sont greffés. Donc ça, c'est le point premier que moi je suis vraiment prêt à défendre comme l'enseignement biblique. Deuxième vérité qui m'apparaît, Dieu n'a pas pour autant renoncé à s'occuper spécialement de l'Israël selon la chair. Si vous voulez, de ses branches coupées, Dieu veut encore faire quelque chose de particulier. On aurait pu penser qu'une fois ces branches coupées, elles soient mises avec la réserve de bois sans distinction aucune, parmi toutes les nations. Mais cela ne me paraît pas le cas d'après l'enseignement du Nouveau Testament. Il me semble clair d'après le Nouveau Testament qu'il y a un avenir encore spécialement réservé à ses descendants selon la chair d'Abraham, Isaac, Jacob, bien qu'ils soient ennemis dans le temps présent, par leur refus de l'évangile. Ils sont ennemis. Mais en même temps, il y a un amour particulier lié à l'élection, au don fait à la lignée dans le plan de Dieu, et cela implique un avenir particulier. Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec ce que défendent beaucoup de frères éminents, et y compris notre frère Georges Moncari, donc, son mémoire, je dirais, m'a tout à fait convaincu du contraire de ce qu'il défend, justement parce que c'était un si bon mémoire. J'étais de son jury, nous lui avons mis mention très bien. À mon avis, c'est le meilleur plaidoyer, il rassemble tous les bons arguments pour la thèse qu'il défend. Et pourtant, il n'a pas convaincu. Pourtant, étudiant le texte, le réétudiant à cette occasion, j'ai conclu que non, quand même. Il ne rendait pas compte de toutes les données du passage suffisamment, et que par conséquent, il fallait attendre un événement particulier encore, une conversion massive. Voilà à quoi j'ai abouti pour ma part. Alors nous n'avons pas le temps de faire une exégèse fouillée, détaillée de ce chapitre de Romains 11, mais je vous dis à quoi j'aboutis, quelle est ma conclusion personnelle. Ce que je suis obligé de concéder à M. Moncari ou à d'autres, c'est qu'il n'y a pas un seul verset dans ce chapitre qui, pris à lui seul, isolément, oblige à attendre une conversion future massive. Je crois que sur ce point, il a raison. Il réussit à interpréter chaque élément pris isolément en disant « mais c'est simplement quand des juifs se convertissent tout au long de l'histoire ». Quand on prend les choses isolément comme ça, c'est possible, je lui concède. Mais ce qui me paraît impossible, c'est de se satisfaire de cela quand je vois l'accumulation. C'est parce qu'il y a trop de touches qui vont en sens contraire, qui suggèrent un grand événement, quelque chose qui soit symétrique, en quelque sorte, du rejet au premier siècle. C'est quand je prends donc cette addition de petites indications tout au fil du texte que je me dis non, c'est pas possible de croire que Paul a dit tout cela simplement en pensant aux conversions individuelles qui vont se produire siècle après siècle. Donc il s'agit d'une impression d'ensemble, d'une preuve cumulative par petits détails montrant qu'il attend plus que ce que M. Moncari a lu lui-même dans le texte. Je signale quand même un des arguments les plus forts en faveur de sa thèse, parce que je crois que c'est juste de le faire, c'est le mot « maintenant » au verset 31. Je relis ce que nous avons lu tout à l'heure, les versets 30 et 31. « De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, vous les païens, hein, et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, et le rejet par Israël a donné l'occasion de la prédication à tous les païens, de même, ils ont maintenant désobéi, afin d'obtenir miséricorde, eux aussi, maintenant, par la miséricorde qui vous a été faite. » Il n'y a pas de doute qu'avec l'idée d'une conversion future d'Israël, massive, la deuxième fois, on n'attendrait pas maintenant. On attendrait plus tard. Vous, autrefois, païens, vous étiez désobéissants, maintenant, ils sont désobéissants et vous obtenez la miséricorde, eux, ils sont maintenant désobéissants, et plus tard, ils vont obtenir miséricorde, voyez. Avec l'idée de la conversion massive à la fin de l'ère chrétienne, on attendrait le mot ultérieurement, plus tard, au verset 31. Il se trouve bien dans un manuscrit tardif, juste un manuscrit, mais ça montre bien que c'est la logique. Mais à coup sûr, c'est pas l'original, parce que ce serait pas, si c'était l'original, dans un manuscrit tardif seulement. Dans les meilleurs manuscrits, il y a maintenant. Maintenant, la Bible à la Colombe l'a mis entre crochets parce qu'elle est embarrassée, mais c'est pas que les manuscrits soient mauvais. Non, je suis obligé de dire non, ça, Paul a dû écrire ce maintenant. Mais alors, est-ce que ça n'a pas l'air d'aller dans le sens de M. Moncari, à savoir que c'est seulement les conversions qui se produisent, voyez, tout au long, maintenant. Vous voyez, l'argument, c'est à mon avis le plus fort argument.
À la miséricorde.
Afin d'obtenir miséricorde, eux aussi, maintenant, par la miséricorde que vous avez été faite. Oui, je crois qu'on est obligé là de dire, c'est maintenant qui est la note temporelle à propos d'obtenir la miséricorde. Alors ça ne suffit pas à me faire changer de conviction, mais je vous explique comment alors la difficulté se résout pour moi. Il s'agit pour Paul, me semble-t-il, de montrer que c'est dans la même tranche du plan de Dieu. Nous disons c'est futur en nombre d'années, mais c'est dans l'âge présent. C'est dans le temps de l'Église, de la Nouvelle Alliance, c'est avant le retour du Seigneur, c'est dans cette période-là de l'histoire, c'est pour ça qu'il dit « maintenant ». Et c'est pour ça qu'en un sens, les conversions individuelles, génération après génération, se produisent aussi par accomplissement de cette promesse, cette volonté de Dieu de faire miséricorde à ceux qui se sont mis dans une situation de désobéissance en refusant Jésus. Voilà comment j'interprète ce maintenant, pour qu'on ne croie pas que c'est dans un autre âge. Contrairement à l'idée d'ailleurs de certains dispensationalistes. C'est vraiment dans le temps présent que cette conversion doit avoir lieu, mais ça n'empêche pas que par rapport à notre calendrier, ce ne soit pas encore arrivé. Il faut dire d'ailleurs qu'il y a eu dans le cours de l'histoire parfois des mouvements importants. J'ai découvert ça lors de ce travail pour la déclaration de Willowbank. Il y avait eu des études historiques faites par certains des membres de notre groupe qui ont montré qu'à certaines époques, il y a eu des hommes de Dieu suscités d'entre les Juifs selon la chair, qui ont entraîné des centaines, des milliers de conversions. Et j'ai noté qu'on estime que dans la persécution nazie, la Shoah, comme je crois qu'il vaut mieux dire la Shoah que l'Holocauste. Les Juifs eux-mêmes préfèrent beaucoup ce terme. Parce que c'est pas un sacrifice à Dieu, hein, comme l'Holocauste est un sacrifice à Dieu. Donc, en ce qui concerne la Shoah, on estimerait à 250 000 le nombre des chrétiens juifs, des juifs d'origine chrétien, qui étaient en fait nombreux, en Hongrie en particulier, il y en aurait eu 250 000 qui auraient été gazés, ouais, exterminés. Moi, j'avoue que je ne savais pas cela avant que l'un des membres de notre groupe le fasse connaître. Le mouvement de ces 20-30 dernières années, qu'on voit dans le judaïsme, est-il une sorte d'amorce de cette conversion que je crois donc légitime d'attendre, selon Romains 11 et selon deux ou trois autres passages? Il y a un double mouvement, il y a un mouvement d'opinion publique, pourrait-on dire, surtout chez les intellectuels juifs, non chrétiens. Un mouvement de bienveillance, d'ouverture, comme pratiquement il n'y en a jamais eu, en tout cas à ce degré. C'est au point, je tiens ça du professeur Siegwald de Strasbourg, qu'un intellectuel juif connu, Ben Horin, serait prêt à considérer comme vraisemblable la résurrection de Jésus. Alors il ne va pas plus loin, mais c'est énorme déjà. Une ouverture, en tout cas Jésus est considéré comme un prophète, de la tradition juive, alors qu'il était considéré comme un maudit magicien, etc., par le judaïsme plus classique. Et puis d'autre part, alors, il y a eu le mouvement des Juifs pour Jésus, vraiment un mouvement de conversion assez nombreuse, en particulier aux États-Unis, mais avec témoignage aussi sur la terre d'Israël. Et je pense qu'on pourrait aussi là voir un début, une amorce, d'un mouvement qui devrait toucher une population beaucoup plus nombreuse. Le grand problème, me semble-t-il, d'interprétation qui reste devant nous, c'est celui du rapport de cette promesse, de cet avenir que Dieu, dans sa miséricorde, réserve aux branches coupées, parce qu'il veut les regreffer en nombre, du rapport de cette promesse à laquelle personnellement je tiens fermement, avec la question de la terre d'Israël et d'une éventuelle restauration politique. Et là, les chrétiens évangéliques sont tout à fait divisés, je crois qu'il faut le dire, qu'il n'y a pas unanimité, et que la situation est plus difficile à trancher que sur la question d'une conversion assez massive, comme je viens de dire que je crois qu'elle se produira. Ma position à cet égard est une position de nouveau assez nuancée, de caractère intermédiaire. J'espère que ce n'est pas que je manque de courage, du sens de la décision, mais il me semble que les positions très tranchées que l'on rencontre le plus souvent ne sont pas adéquates. Quelles sont-elles, ces deux positions tranchées que j'écarte à ma droite et à ma gauche, si vous voulez? Première position, celle qui est très classique, qu'on trouve souvent parmi les réformés évangéliques, c'est la position sur laquelle il n'y a rien à attendre de ce côté-là. Que les promesses faites dans l'Ancien Testament aboutissent à l'Église, celles qui concernent la terre aussi, que la plupart doivent s'interpréter de manière figurée, comme le Nouveau Testament lui-même le fait, qu'il n'y a donc rien à attendre de cet ordre-là. Même si on espère une conversion, qu'il n'y a pas lieu de penser à un autre type de restauration, et que c'est par erreur qu'on interprète les prophéties de l'Ancien Testament en y voyant quelque chose qui favoriserait le sionisme aujourd'hui, disons. Ça, c'est une position qui est adoptée par plusieurs, et c'est de ce côté-là, sans brutalité peut-être, mais que pencherait Colin Chapman dans un livre très intéressant sur notre sujet, Whose Promised Land. Il était question de le traduire en français, finalement il n'a pas été traduit, en tout cas pas publié, en traduction française, mais c'est un livre très important qui a aussi tout un dossier historique sur Israël au XXe siècle. C'est un travail très intéressant. Alors pour ceux qui adoptent cette position, le retour d'un nombre important d'Israélites devenus israéliens à la suite de l'Aliyah au XXe siècle n'a rien à voir avec la prophétie. Le plan de Dieu, c'est peut-être une supercherie de Satan pour égarer les chrétiens, mais en tout cas ça n'a aucune signification prophétique. Ça, c'est la position de certains nombres d'évangéliques, et je pense que cette position n'est pas adéquate quant à moi. Deuxième position, c'est de l'autre côté cette fois, celle qui croit que les prophéties de l'Ancien Testament visent très souvent la restauration politique qui s'est produite sous nos yeux et qui continue d'ailleurs d'évoluer, qu'Israël a, de par l'alliance avec Abraham, un droit inaliénable, éternel, aujourd'hui encore efficace à cette terre, que cette terre lui appartient de droit divin, de telle sorte qu'il est juste qu'elle en expulse, par exemple, les Palestiniens. Cette position, qu'on pourrait dire sioniste, très souvent associée au dispensationalisme, vous comprenez pourquoi, après ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette position est fréquente. Certains chrétiens, disons, dans cette optique, ont fondé une ambassade chrétienne à Jérusalem, qui soutient très fortement le sionisme, je reçois leurs papiers régulièrement, et de nouveau cette position ne me paraît pas adéquate. Alors, quelle est celle qui me paraît meilleure? Alors je schématise encore, sans avoir bien sûr le temps d'entrer dans les détails. Je crois que la plupart des prophéties de l'Ancien Testament, citées par les gens chrétien sioniste, disons, et les promesses faites à Abraham ne s'appliquent pas à l'occupation présente de la terre d'Israël ou de Palestine, comme on veut, ne s'appliquent pas à la reconquête sioniste, disons, du territoire. Je pense que c'est par erreur que l'on considère que la plupart des prophéties ont ceci comme visée. Et en ce qui concerne les promesses de la terre pour Abraham, je pense qu'elles ont pour cadre l'Ancien Testament, le cadre de l'Ancienne Alliance en vigueur, et qu'on ne doit pas comprendre les « à toujours » qui sont dans les textes, « à toujours », »,« à jamais », dans le sens le plus fort, qui déborderait du cadre de l'Ancien Testament. Car en effet, cette formule « à toujours », elle est employée exactement de la même façon, c'est les mêmes mots dans le texte hébreu, etc., je pourrais vous le montrer, pour la circoncision par exemple, pour la fête de la Pâque, à célébrer toujours, pour le sacerdoce lévitique. Or le Nouveau Testament nous dit très clairement que c'était valable dans le cadre de l'Ancien Testament, que ça n'a pas à continuer au-delà. Alors on peut dire aussi, c'est une façon de dire d'ailleurs, que cela continue dans l'antitype, que c'était des réalités des types, des figures que Dieu avait instituées, et qu'en un sens, le type n'est pas vraiment aboli, n'est pas anéanti quand l'antitype arrive. Quand c'est la circoncision de l'esprit qui remplace la circoncision de la chair, la circoncision de la chair en quelque sorte, et comme promue au rang supérieur, elle n'est pas simplement perdue. De même la Pâque, quand le Christ, notre Pâque, est sacrifié, quand la vraie Pâque, quand cette Pâque est accomplie dans le royaume de Dieu. Oui. On peut dire que la relation du type à l'antitype, de la figure à la réalité annoncée, est une relation positive qui implique que le type, la figure, subsiste, métamorphosée, comme la chenille, si vous voulez, se transforme en papillon. On peut interpréter le « à toujours » si on veut, aussi de cette façon. Le sacerdoce lévitique est accompli dans le sacerdoce de Jésus-Christ, bien qu'il ne soit pas lévite. Il accomplit cette figure aussi. On peut l'interpréter de cette façon, mais de toute façon, il me semble que le Nouveau Testament dit clairement que ces « à toujours » ne sont pas à prendre au sens d'un maintien sous la forme littérale extérieure après Jésus-Christ. Donc, si c'est vrai pour la circoncision, pour la fête de Pâques, je crois que ça appartient au même ensemble que ce qui concerne la terre, l'occupation de la terre. Donc, premier point, je ne pense pas pour ma part que la plupart des prophéties ou ces textes d'alliance impliquent la justification du sionisme qu'on y voit souvent aujourd'hui. Deuxièmement, je pense quand même qu'il y a certains textes qui impliquent au moins par suggestion forte, une restauration matérielle et pas seulement la conversion spirituelle pour les Israélites selon la chair, pour ces branches coupées. Il y a tout spécialement Luc 21-24. Jérusalem, là ça doit être pris au sens littéral, est foulée aux pieds par les nations jusqu'au moment où le temps des nations sera accompli. Comme ça concerne Israël littéral, là, Jérusalem littéral, il me semble que ça, c'est une prédiction de ce qui s'est accompli à partir de 70. Les nations ont foulé aux pieds ce terrain, mais en disant jusqu'au temps où le temps des nations sera accompli, Jésus suggère qu'à ce moment-là, il y aura un changement. Bon, c'est une suggestion seulement, d'accord, mais c'est quand même une suggestion forte. Et il y a d'autres passages, votre demeure va être laissée déserte, le temple en ruine, jusqu'au moment où vous direz, voici venir au nom du Seigneur. Je ne citerai pas pour la restauration politique le texte d'Acte 1-6, qu'on cite souvent, est-ce en ce temps-là que tu restaureras le royaume d'Israël, parce que je crois que c'est mal traduit. C'est pas le royaume d'Israël, c'est le royaume à Israël. C'est le datif qui est employé dans le texte original. Et dans le contexte, trois versets avant, c'est précisé, c'est du royaume de Dieu qu'il est question. Donc, ce n'est pas la royauté comme état politique, mais c'est le royaume de Dieu dont, dans Matthieu 21, Jésus a dit qu'il allait être enlevé à cette nation rebelle pour être donné à une autre nation qui en porterait les fruits, le nouvel Israël qui porte le fruit de foi. Donc le royaume de Dieu a été enlevé à l'Israël charnel, mais il va lui être restitué quand il se convertira. Il s'agit du royaume de Dieu comme réalité spirituelle. Donc je crois qu'Acte 1-6 ne parle pas de restauration politique, mais parle de la conversion en fait. Quand le royaume de Dieu, sera rendu à Israël par sa conversion. Mais, comme je vous dis, il y a Luc 21-24. Il y a quelques autres passages, et à mon avis, il y a peut-être quelques passages de l'Ancien Testament. Je suis prêt à penser que la fin de Zacharie, venant tout au terme du mouvement prophétique, parle aussi d'une situation où il y a une certaine restauration politique d'Israël. Je conçois cela comme une mesure essentiellement destinée à permettre la conversion massive. Comment est-ce que ça va se passer, la conversion massive? Un peu comme les réveils. Or, les réveils, en général, c'est tout un pays. Réveil du Pays de Galles, réveil de la Drôme, réveil... Il me semble que le Seigneur nous montre que lorsqu'il y a eu de grands mouvements massifs de conversion, ça a été dans des zones géographiquement circonscrites, à la faveur d'une certaine proximité corporelle des gens, et que le rassemblement d'une fraction notable de ceux qui se nomment israélites ou israéliens dans la même terre a aussi la signification de préparer la conversion que je crois est dite. Donc, je crois qu'il y a une dimension de restauration matérielle, et par conséquent, je crois que ce que nous avons vu en notre siècle est bien, selon le plan de Dieu, est un signe pour nous. Que ce n'est pas une supercherie de Satan, pas du tout. Que c'est vraiment un accomplissement. Mais je n'investis pas cela de tout le poids de ceux dont j'ai refusé la position. Je ne dis pas c'est l'accomplissement de toutes ces prophéties de l'Ancien Testament, parce que la plupart d'entre elles, je crois qu'elles ne visent pas ces événements. Je n'en fais pas non plus théologiquement quelque chose de majeur en disant Dieu devait le faire. C'était sa promesse à Abraham. Je pense que c'est une mesure de grâce par surcroît, de miséricorde en plus du Seigneur, par laquelle il boucle la boucle en quelque sorte. Il achève en beauté l'exécution de son plan.
Justement, à ce titre-là, est-ce qu'on ne peut pas envisager le rôle de témoin du peuple d'Israël dans le dessein général de Dieu vis-à-vis des hommes?
Si, je crois que c'est tout à fait possible, l'idée du peuple témoin. Je l'inclus volontiers dans la théologie du mystère d'Israël. J'ai résumé, j'ai été très schématique, comme vous vous en rendez compte, c'était inévitable, puisque là, bon, l'heure se termine que nous avons consacrée au sujet, et c'est bien peu une heure pour un si grand sujet, mais l'idée du peuple témoin me semble très importante, surtout quand on prend le mot témoin au sens de la butte témoin. Témoin par son existence, témoin par son histoire, dans son être. Pas tellement témoin par le discours, oui. Mais Israël est le peuple spécimen, en quelque sorte, que Dieu choisit pour représenter toute l'humanité, pour être comme le miroir particulier où se concentreront les rayons de sa lumière et de ses actions lumineuses dans l'histoire.
Oui, mais il est témoin à quel moment? Parce que, je veux dire, actuellement, il n'est pas du tout témoin, il est presque anti-témoin par ses actions. Donc, comment voir ça comme peuple témoin?
Et je crois qu'il y a justement dans la tradition de la réflexion sur ce sujet, je pense en particulier à saint Augustin, il y a cette idée qu'il est témoin malgré lui dans son rejet de Jésus-Christ. Il est témoin en tant que gardien des Écritures, mais il est aussi témoin du malheur dans lequel se précipite l'humanité si elle rejette Jésus. Donc il y a un aspect de témoignage, mais c'est justement dans son être, pas dans son discours, pas dans ce qu'il fait parce que c'est contraire au précepte divin et à l'appel de Dieu, mais dans son être même. C'est dans ce sens que je le discernerai.
En forme d'exemple.
Pas de modèle, mais disons d'exemple au sens de.
Comme un témoin expérimental, en quelque sorte.
Oui, c'est ça, oui, exactement. Oui.
Et le fait que Dieu interviendrait si on suit ta conviction, puisque un certain nombre de prophéties concernent effectivement une restauration d'Israël, une intervention, disons, de Dieu dans l'histoire d'Israël sous les yeux des nations. Je dirais, ça aussi, c'est un témoignage de l'existence de Dieu, de la fidélité de Dieu, de la pérennité de son plan, du souci qu'il a de conduire jusqu'à l'achèvement ce qu'il a entrepris. Il me semble, dans les contacts que nous avons avec les autres pierres, que la question juive reste entière, la question de ce peuple élu reste entière, et on bute là-dessus. Il y a une montée d'antisémitisme qui est assez forte, assez remarquable, et je crois que ça bute sur l'être d'Israël. Et en tant que juif, même les juifs butent là-dessus. Ils n'ont pas demandé à être juif. C'est trop lourd à porter.
Est-ce que ça, c'est pas un petit peu politique, hein? Parce que on a vu dans l'histoire, ça pouvait être demain un autre pays, etc. Enfin, moi, je me méfie un petit peu des prophéties comme ça, parce qu'on les utilise un peu, on les a utilisées dans le temps, on les réutilise, Et en fait, c'est un petit peu des pochettes surprises. D'ailleurs. Enfin, je suis extrémiste quand je dis ça, mais bon, je pense que certains sont à prendre avec un peu plus facette. Hein. Mais bien souvent, dans le milieu, on utilise des textes. Et je ne suis pas sûre que ce ne soit pas déjà des prophéties déjà accomplies. Et puis, quelque part aussi, je crois que moralement, ça nous rassure aussi un peu. Et c'est un petit peu ça qui m'inquiète. Et là où je l'associe au domaine politique, c'est là où je l'associe au domaine politique. C'est-à-dire qu'on accepte un peu presque n'importe quoi, n'importe comment, en disant, mais de toute façon, il y a des prophéties, donc ces prophéties, elles sont en train de s'accomplir, elles vont s'accomplir. On oublie parfois que dans le temps, dans l'histoire, elles se sont déjà parfois accomplies, etc. Donc,
moi, ce n'est pas de la prophétie que je parle à
Oui, mais quand on parle...
Parce que ce sur quoi on bute dans notre dialogue avec les non-croyants, c'est le problème de l'élection. C'est le fait que Dieu ait choisi un peuple. J'ai choisi Jacob et j'ai rejeté Ésaü. Le scandale est là. Et quand dans ton témoignage personnel, comme on me l'a dit la semaine dernière, j'ai dit que, bon, je crois que Dieu intervient dans notre vie. Je crois que c'est quelque chose qui nous concerne. On m'a dit, vous êtes un prétentieux. Je trouve que c'est orgueilleux de penser que Dieu puisse s'intéresser, au fond, à vous, à votre petite histoire, qu'il vous ait choisi parmi les autres, en quelque sorte. Ça, c'est scandaleux. On bute là-dessus. Et c'est sur le choix d'un peuple, que ce soit Israël ou un autre, ou les Palestiniens, si tu veux. Je veux dire, le problème resterait le même. C'est là-dessus qu'il nous faut, en quelque sorte, pouvoir répondre. Alors, c'est sûr que s'engouffre dans cette brèche toutes les questions politiques de manipulation et d'utilisation auxquelles nous pouvons nous laisser aller.
Ça, c'est tout à fait. Parce qu'en tant que chrétien, je me souviens lors d'un cours, et c'était avec votre père, lorsqu'on parlait, bon, on était en train d'étudier tout le côté de l'Ancien Testament, qui sortait bon, des textes bibliques, etc. Et moi-même, m'être posé la question, mais pourquoi Abraham? Et ça, c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi lui? Il aurait pu être quelqu'un d'autre, on ne voit pas dans les textes.
Il aurait toujours été quelqu'un qu'on aurait récusé.
Exactement. Mais si, bon, Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu choisit. D'accord? Mais Dieu ne fait pas de favoritisme. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que je...
C'est pas le favoritisme. Nous refusons que Dieu, l'homme refuse, je crois que c'est ça l'orgueil suprême. L'homme refuse que Dieu intervienne dans ses affaires, dans nos histoires, que ce soit dans l'histoire personnelle ou dans l'histoire du monde. Dès lors que Dieu intervient, qu'il en choisisse un blanc, qu'il en choisisse un noir, ou qu'il en choisisse un autre, il n'a pas à le faire. Le fait de choisir, c'est une injustice. C'est ce que je rencontre et c'est là-dessus que je bute sans arrêt. Et je vois que c'est un refus très profond de Dieu et que c'est sur ce refus de départ que se greffent ensuite toutes les autres choses que nous construisons avec la politique, avec les interprétations prophétiques, avec toutes sortes de choses. Mais c'est là-dessus, ça part de là. Et ça me semble très fort. Et je n'arrive pas personnellement dans mes relations avec les non-croyants, dans le témoignage, je ne suis pas arrivé à... Il faut vraiment une intervention de Dieu pour que cette chose-là tombe.
Mais Dieu a dit aussi, mes plans ne sont pas vos plans, et mes pensées ne sont pas les mêmes que les
vôtres.
Je crois tout à fait que ce refus de la souveraine liberté du Seigneur, c'est ce qui est le plus profond dans l'antisémitisme. C'est le rejet de ce choix de Dieu. Alors, la difficulté, disons, de réflexion théologique, qui s'associe à l'affirmation qui est la nôtre, c'est de marquer la différence entre libre arbitre divin et puis arbitraire. Dieu n'est pas arbitraire. Je ne dirais pas tellement que les textes disant qu'il ne fait pas de favoritisme, qu'il ne fait pas exception de personne, sont ici en cause, parce que faire exception de personne, c'est-à-dire agir à la tête du client, traiter bien ceux qui sont riches, ceux qui, etc., c'est en fait, n'étant pas arbitraire, mais suivre une certaine règle d'avantage, d'utilité. Mais nous avons, pour foi première, que notre Dieu est un Dieu bon, juste, aimant, qu'il aime tous les hommes, et c'est là que se situe pour nous la grande difficulté, de dire il est souverainement libre, il choisit qui il veut, et pourtant ce n'est pas de l'arbitraire, ce n'est pas un caprice, il n'est pas un enfant fantasque qui... C'est là que, théologiquement, vraiment, c'est très très dur. Et que nous sommes obligés de nous courber, je crois, Nous faisons confiance à notre Dieu, mais nous ne pouvons pas sonder son choix, en quelque sorte, le démonter du tout. Alors, pour ce qui est de notre sujet, avant que vous me parliez, ceux qui devront partir, partiront, mais je pense que pour la conversation peut continuer. Je voudrais faire trois remarques. En ce qui concerne les prophéties de restauration dans l'Ancien Testament, si je crois qu'elles ne s'appliquent pas aux événements de notre siècle, c'est parce qu'il me semble que dans le texte de l'Ancien Testament, on les voit s'appliquer à des événements de l'Ancien Testament tout à fait bien repérés. En particulier, la délivrance par Cyrus. Donc, alors c'est là que je dis, on n'a pas le droit de dire, si ça s'est accompli, ça va s'accomplir encore, ça vise un autre événement. C'est pas parce que c'est dans la Bible, si ça s'est accompli, Dieu peut refaire à la même chose, mais on ne peut pas dire qu'il a promis de le faire, s'il l'a déjà accompli. Bon, deuxième remarque, l'élection est l'élection d'Israël, mais c'est très complexe, c'est pas une simple race. Nous disons selon la chair, mais la chair, ça signifie pas seulement la matière du corps. Il y a eu tous les prosélytes, il y a peut-être eu des millions de prosélytes au Moyen-Âge à un certain moment, tout un royaume qui s'est fait juif. Le royaume des Khazars. Alors, disons, il y a une identité juive, mais elle-même est singulière. Elle-même a un statut qui n'est pas simplement le statut d'une race ou d'une religion. C'est ni l'un ni l'autre, et les deux en même temps, un petit peu. Et, voyez, bon. Ça, je crois que c'est une chose à remarquer. Troisièmement, en ce qui concerne Israël aujourd'hui et la politique qu'il mène, je crois qu'on doit dire que même si on croit que les prophéties de l'Ancien Testament annoncent qu'au XXe siècle après Jésus-Christ, les descendants charnels d'Israël vont reconquérir le pays, que c'est leur droit, etc., que même s'il en est ainsi, ce n'est pas une raison suffisante pour justifier la politique et être sioniste au sens politique. Car nous voyons que Dieu, dans l'Ancien Testament, annonce des choses, utilise des instruments pour faire de grandes opérations dans l'histoire, et en même temps, il juge ces instruments. Ces instruments sont coupables. Dieu les utilise, mais il utilise même leurs crimes, mais leurs crimes restent des crimes que Dieu juge. Alors, même si nous sommes, disons, persuadés de ce que je ne crois pas juste quant aux prophéties de l'Ancien Testament, ça ne doit pas nous faire fermer les yeux, du point de vue de l'éthique, de la morale biblique, sur la manière d'agir des dirigeants israéliens aujourd'hui, par exemple.
Oui, dans cet ordre d'idée, Dieu fait le choix, Dieu décide. Dans la bénédiction d'origine d'Isaac et dans sa continuité à travers le peuple, il y a aussi une bénédiction qu'on oublie souvent, c'est celle d'Ismaël, et très spécifique. Comment, par rapport aux événements actuels, sur un plan social, politique, géographique, comprendre cette bénédiction que Dieu donne à Ismaël est très spécifique. Est-ce qu'il n'y a pas une réponse éventuelle ou un cheminement là intéressant?
Oui, tout à fait d'accord. Nous avons trop tendance à prendre les choses symétriquement et à dire simplement le rejet, par exemple, alors que c'est une moindre bénédiction, mais il y a aussi bénédiction, il y a aussi la grâce commune pour tous les peuples. Et Dieu ne les a pas abandonnés, même dans le cours de l'Ancien Testament. Il y a Amos 9 qui est très important à ce propos.
Et par rapport à une continuité, par rapport aux événements actuels
Ça ne me paraît pas impossible, mais il faudrait l'étudier. Moi, je l'ai pas étudié de manière systématique.
Mais de nos sensibilités, c'est quelque chose qui serait très intéressant.
Oui, oui. Tout à fait d'accord.
Moi, ce qui me parle, c'est la prudence de Christ. Lorsqu'on lui pose des questions bien spécifiques. Lorsqu'on lui dit, mais quand vas-tu rétablir le royaume d'Israël? Et en fait, on ne voit nulle part de ce que je comprends maintenant. Je comprends. Mais on ne voit nulle part que Jésus dit, eh ben, écoutez, ça sera voilà, comme ça, avec des temps donnés, etc., etc. Et ce qui m'affole, enfin, pour moi, ce qui m'attriste, disons, le mot attristé plus juste, c'est en fait que nous devenons nous-mêmes, nous prévoyons nous-mêmes les événements, nous les créons, nous les justifions, et c'est ça qui est dangereux. Pourquoi ? Parce que à la base, c'est parfois une barrière de plus qu'on met aux gens pour s'approcher de Christ. C'est comme si on rajoutait toujours plus de barrières. Et c'est là ma plus grande inquiétude. En fait, moi, qui suis-je pour dire à Dieu, ne fais pas, ou ne dis pas? Je ne peux pas le faire. Et je ne veux pas de toute manière le faire. Mais je ne peux accepter le fait que nous mettions toujours plus de barrières en disant, un petit peu comme au départ de l'Église, en disant, bon, certains ont voulu dire, ben écoutez, oui, pour vraiment être des chrétiens, ben, il faut vous circoncire, ceci, 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 cela. Et je crois que Dieu, dans sa grâce, nous donne une entière liberté de nous approcher de lui au travers de Christ, au travers du sacrifice, qui est vraiment la pierre de touche, et nous rajoutons toujours plus de barrières. On dit oui, mais c'est gratuit, mais en fait, il faut encore quand même. Et je dis que là, dans cette approche du sujet d'Israël, c'est le plus grand risque, et c'est la plus grande crainte.
Je crois, Guillaume, peut-être que tu expliques pourquoi, Farida. Je crois dans le ministère dans lequel nous nous trouvons, et moi je le réalise clairement dans l'évangélisation des musulmans. Bon, on va dans beaucoup d'églises, on rencontre beaucoup de gens, et je dirais que la pierre d'achoppement, je veux dire, moi j'ai été agressée verbalement très 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 souvent, pas à cause de ce que je disais sur l'évangélisation des musulmans, mais parce que dans ce que je disais, les gens voyaient en fait un antisémitisme, alors que moi pas du tout, mais alors absolument pas. Mais parce qu'il y a cette situation politique actuellement, le Moyen-Orient, etc. Et je dis vraiment que c'est une souffrance. Je souffre terriblement de ça, de ce qu'en fait, je dirais, comme vous dites, les chrétiens ne soient pas plus clairvoyants, qu'ils ne réalisent pas que, bon, tout n'est pas rose pour Israël. Mais je dirais que c'est un pierre d'achoppement dans le ministère, actuellement, c'est quelque chose de très actuel, dans le ministère parmi les musulmans. C'est pour nous, c'est ce qui empêche beaucoup de musulmans d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils rencontrent beaucoup de chrétiens qui défendent tellement Israël, mais qui ne le font pas comme vous l'avez fait ce matin, qui ne parlent pas comme vous avez parlé ce matin, mais qui disent, voilà, Israël, c'est tout blanc, donc automatiquement les musulmans ont tort, et je dis que ça empêche beaucoup de gens de se convertir, parce que ce qu'ils entendent en premier en entrant dans une église, c'est qu'il faut soutenir Israël, etc. Et je crois que c'est un peu pour ça. Bon, là, je parle vraiment du fond de mon cœur, je veux dire, qu'est-ce qu'on ressent aujourd'hui?
Alors, je dirais,
c'est quelque chose de très particulier qu'on vit par les gens, moi-même et d'autres. Mais...
Et l'humour de Dieu, enfin, moi, je trouve, c'est que, en fait, ces Palestiniens, là, en entrant dans la politique, entre guillemets, je ne veux pas, justement, donner le porte-flanc à ça, mais que ces Palestiniens se convertissent au judaïsme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils sont? Faut-il qu'on les mette dehors? Faut-il qu'ils restent? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est l'accomplissement d'une prophétie de je ne sais où? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, notre désir, moi je suis consciente, comme dit le livre d'Hébreu, que en fait c'est par cette multitude de témoins que je peux m'approcher de Christ, que j'ai cette connaissance de Christ, parce que des gens étaient fidèles, et aussi bien ce peuple d'Israël, etc. Mais nous faisons attention de ne pas rajouter, et je ne sais pas ce que l'avenir sera fait. Ce dont je peux juste m'appuyer, c'est sur la parole de Dieu, en sachant que cette parole peut être comprise par des groupes différemment, mais qu'en fait, pour moi, le point essentiel, enfin, je dirais deux choses dans ma conversion, l'amour de Dieu et le fait que Dieu ne fasse pas de favoritisme. Et quand je comprends le fait de ne pas de favoritisme, c'est-à-dire que, en fait, devant Dieu, tous les hommes et les femmes sont pécheurs, pécheresses, et que c'est par le fait de Christ, c'est au travers de Christ, seulement que j'ai un petit droit de regard. Mais en fait, ce n'est pas par autre chose. Et Dieu permet que, justement, je n'aime pas cette utilisation, je suis grecque, mais...
Mais écoute, on bute là-dessus. Je crois que la chose est encore plus radicale que vous ne le dites. Oui. Le scandale, c'est que le salut vienne des Juifs. Dès lors que nous annonçons Jésus, nous annonçons... C'est un Juif, c'est ce qu'on vous dit. Donc, vous êtes sioniste. On bute là-dessus. Dans notre société, on bute là-dessus. Vous êtes au premier rang parce que vous communiquez l'évangile à des musulmans. Quand on a des relations qui ne sont pas musulmanes, qui sont des gens d'extrême droite, on bute là-dessus. Ils refusent il refuse Jésus.
Mais
il refuse ce choix de Dieu.
Mais c'est un élément actuellement politique, c'est-à-dire.
Mais oui, mais.
C'est-à-dire, attends.
Juste de fois, c'est plus que politique. De fois, tu le fais.
Oui,
mais. Madame Ménard, vous voulez dire un mot
de français? Non,
c'est plus grave que ça.
Par rapport aux deux interventions, justement, alors, parce que je trouve qu'elle est. C'est vraiment intéressant, parce que c'est. En fait, ce que dit Farida, j'ai été. Ce qui m'a attirée vers le Seigneur, c'est que justement, il ne faisait pas de favoritisme. Et ce que dit Jacques, c'est que Dieu a élu quand même un peuple. Et que ça, de trouver la balance, l'équilibre entre les deux, pour que c'est très difficile. Enfin, c'était juste cette réflexion-là. Mais je trouve que les deux sont vrais et qu'on ne peut pas avancer en niant l'un, parce que à ce moment-là, on devient extrémiste de l'autre côté.
Si on regarde dans l'histoire.
Je crois qu'il va falloir conclure, parce que certains doivent partir, il y a des enfants peut-être qui attendent.
Moi, je voudrais dire en conclusion que nous devons garder la mémoire de cette souffrance qui a été évoquée. Je crois qu'elle est, normale, elle est biblique. L'apôtre Paul a connu cela. À un degré que nous ne connaîtrons sans doute pas, mais c'était bien celle-là, il était considéré comme traître, il était diffamé, je pense à notre frère, M. Guggenheim, simplement parce qu'il affirme que ses frères juifs de race doivent se convertir à Jésus-Christ pour être sauvés, mais il a été en butte à une hostilité de la part de chrétiens, vraiment, à cause de ses idées tordues. Pensons à ceux qui souffrent en cette affaire, et puis écoutons les exhortations qui nous ont été données très éloquemment, je crois, par les frères et sœurs.